BW. Droits et libertés.
La sécheresse, les conflits, les raisons de la famine qui frappe la population éthiopienne sont multiples. Mais ce qui est choquant au regard des corps décharnés dont les photos circulent sur Internet, c'est que cette situation aurait pu être évitée. Et au moment où les Éthiopiens luttent pour leur survie, leurs dirigeants, eux, luttent d'abord pour leur pouvoir. C'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Mais pour commencer, nous parlons du Tchad, où l'un des principaux opposants au président de la transition a été tué la semaine dernière par les forces de sécurité qui ont pris d'assaut le siège de son parti. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Lorsque vous écoutez nos journaux d'information, vous entendez des interviews, des déclarations assez brèves. Mais souvent, nous nous sommes entretenus plus longtemps que ça avec nos interlocuteurs. Et au moment de la diffusion, il faut faire des choix pour respecter le temps d'antenne imparti. Pourtant, il arrive que nos interlocuteurs disent beaucoup de choses que nous aimerions partager avec vous. Alors, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un entretien enregistré la semaine dernière au lendemain des violences à N'Djamena, parce que cet entretien est éclairant. Pour rappel, les forces de l'ordre ont encerclé mercredi le QG du Parti Socialiste Sans Frontières à N'Djamena, parti dirigé par Yahya Dillo. Les autorités lui reprochaient de fomenter une rébellion armée. Lors de l'assaut du bâtiment, il y a eu des échanges de tirs et Yahya Dillo a été tué. Voici ce qu'en disait le lendemain le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamallah.
Monsieur Yahya Dillo et ses partisans ont été poursuivis pour se faire arrêter. Au moment où ils sont allés pour les arrêter, ils ont répliqué avec des armes lourdes contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont usé de leurs droits légitimes à la défense et ont attaqué ces personnes, les ont appréhendées. Il y a eu des morts de notre côté, il y a eu 4 morts de notre côté, 3 morts du côté des assaillants. Et à partir de là, M. Yahya Dillo a succombé suite à ses blessures, puisque lui-même a tiré sur les forces de l'ordre.
Il se trouve que Yahya Dillo était un opposant farouche à Mahamat Debi Itno, le président de la transition, dont il était par ailleurs un cousin. Yahya Dillo représentait une frange critique du clan familial au pouvoir et un frère de feu Idriss Debi Itno, le général Saleh Debi, avait pris le parti de Yahya Dillo il y a peu et le Parti Socialiste Sans Frontières comptait bien présenter son leader à la présidentielle prévue pour le 6 mai prochain face à Mahamat Debi Itno. Quoi qu'il en soit, le politiste et juriste tchadien Baïdessou Soukolgué pense que la mort de Yahya Dillo aura donc des répercussions sur le processus électoral, mais aussi la suite de la transition.
Ben, la violence et la politique tchadienne, je crois, vont de pair. C'est dès le lendemain des indépendances que la violence politique ou les violences politiques se sont invitées. Et depuis, d'accord en accord, le pays n'est jamais parvenu à se remettre ou à briser le cycle des violences politiques. Nous pensions, avec le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, que nous s'éminions vers une refondation de la République, mais aussi refondation des mœurs politiques. Malheureusement, les tragiques événements de ces deux derniers jours nous ramènent encore à cela. Et très clairement, il s'agit d'une élimination, d'un assassinat politique.
Et selon vous, est-ce que ces violences peuvent avoir une influence sur la fin de la transition et éventuellement même l'organisation des élections telles que prévues le 6 mai prochain?
Et évidemment, la transition en cours n'était certes pas parfaite, mais les autorités semblaient avoir encore le contrôle de la situation. Et avec le chronogramme électoral récemment annoncé par l'Agence nationale de gestion des élections, on pensait sortir de cette transition et donc repartir vers un nouveau cycle politique. Mais bon, très clairement, ces événements marquants, un recul au niveau de la démocratie, vont avoir un impact sur, d'une part, la confiance de la population et donc des électeurs dans le processus transitionnel en cours et des élections qui interviendront très bientôt, à commencer par l'élection présidentielle. Il y aura un impact. On ne sait pas pour l'heure, comment est-ce que le processus électoral va se décliner. On se retrouve dans un contexte où Ce sont pratiquement tous les partis politiques qui comptent sur l'échiquier politique national qui soutiennent le président de la transition avec une centaine, peut-être même plus, d'organisations de la société civile assez crédibles qui sont aussi dans son camp, mais très clairement, il y aura un impact, du moins en termes de confiance dans le processus.
Vous êtes à l'écoute de Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être qu'en 1985, le musicien engagé Bob Geldof a organisé deux concerts à Londres et Philadelphie pour lever des fonds et venir en aide aux Éthiopiens frappés par une famine qui ravage alors le pays pendant 2 ans. 40 ans plus tard, les experts prédisent une nouvelle famine dévastatrice qui a déjà commencé dans la Corne de l'Afrique. Le Programme alimentaire mondial estime que 20 millions de personnes ont déjà besoin d'une aide d'urgence rien qu'en Éthiopie. Getachew Reda, qui préside actuellement la province du Tigré dans le nord, a déclaré que 90% des habitants de sa région sont menacés de mourir de faim. Les autorités tigréennes mettent en garde contre une famine qui pourrait être pire encore que celle qui avait déjà fait des centaines de milliers de victimes dans les années 1980. On écoute Joseph Kebremichael, il est infirmier, il s'occupe d'enfants en bas âge à l'hôpital de Yechila dans le centre du Tigré.
En quelques mois, plus de 80 enfants souffrant de malnutrition sévère ont été pris en charge dans notre hôpital. Ce chiffre n'inclut pas ceux qui bénéficient d'un soutien à domicile et les nombreux autres qui n'ont pas été pris en charge par manque de ressources. La faim s'est aggravée, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Souvent, même ceux qui ont terminé un traitement sont obligés de revenir.
À Addis Abeba, le gouvernement fédéral affirme, lui, que les informations relayées par les autorités du Tigré sont inexactes. Il accuse Getachew Reda de politiser la crise. En 2022, un groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accusant le gouvernement éthiopien d'avoir utilisé la famine comme arme de guerre, entre autres violations des droits de l'homme commises pendant la guerre du Tigré. Devant les accusations qui se multiplient, le Premier ministre Abiy Ahmed a publié en février une déclaration conjointe avec les Nations Unies. Le gouvernement éthiopien reconnaît désormais du bout des lèvres que les populations du Tigré et de la région Amhara sont désormais confrontées à un nouvel ennemi, la faim, après des années d'affrontements meurtriers. Les répercussions de la guerre ont été aggravées par la pire sécheresse depuis des décennies que traverse la Corne de l'Afrique. Seule la moitié des terres agricoles du Tigré a été cultivée au cours de la principale saison de plantation l'année dernière, d'après l'ONU. Et dans la plupart des cas, seul un tiers de la récolte était utilisable. Fitsoum Veldegbrial, mère de famille d'une soixantaine d'années, vit dans le district d'Atsbi, dans l'est du Tigré. Et l'année dernière, raconte-elle, elle n'a vu tomber la pluie que 2 fois.
Rien de ce que nous avons planté n'a donné de récolte et il y a maintenant une famine dans le pays. Je n'avais jamais vu ou entendu parler d'une telle famine depuis que ma mère m'a donné naissance. Autrefois, quand il y avait un problème, on allait quelque part et on mendiait pour manger. Aujourd'hui, nous n'avons même pas l'énergie nécessaire pour partir ailleurs.
L'aide humanitaire a été volée avant d'arriver aux bénéficiaires. Le PAM a donc décidé en mars 2023 de suspendre certaines de ses livraisons alimentaires au Tigré, notamment les céréales. En juin, le PAM a étendu ses mesures à toute l'Éthiopie en raison de la corruption. Les autorités américaines ont déclaré qu'elles pensaient que ce vol de céréales était peut-être le plus grand détournement délibéré de céréales de l'histoire, à un moment où en plus ces produits de base continuent d'être très demandés. Les exportations ukrainiennes restent très limitées à cause de la guerre qui sévit toujours dans ce pays. Laetitia Bader est directrice adjointe pour l'Afrique à Human Rights Watch.
L'aide alimentaire a été interrompue en Éthiopie à un moment critique pendant de nombreux mois, alors que les Nations Unies et le gouvernement américain en particulier enquêtaient sur des allégations de détournement généralisé de cette aide dans tout le pays. Aujourd'hui, il y a une incroyable pénurie de financement des programmes d'aide à un moment absolument critique. Il est évidemment essentiel que les donateurs et la communauté internationale enquêtent et prennent des mesures contre ces dérives. Mais en même temps, il est essentiel que cela ne se fasse pas au détriment des nombreuses personnes dans le besoin. Il est donc essentiel que la programmation et le financement servent également à garantir la mise en place de contrôles et de bilans réguliers afin que l'aide alimentaire ne contribue non pas aux abus de certains individus, mais qu'elle atteigne les gens qui en ont vraiment besoin. Et il est donc absolument essentiel que le financement et le soutien internationaux augmentent de manière significative, non seulement en Éthiopie, mais aussi dans le reste de la Corne de l'Afrique, qui est à nouveau confronté à une insécurité alimentaire massive.
Il n'a pas pu encore être établi formellement qui a profité des détournements. Certains accusent le gouvernement fédéral, d'autres l'armée très puissante en Éthiopie. Un mois seulement après la reprise des livraisons d'aide par le PAM et d'autres agences et gouvernements, seule une petite partie de la population du Tigré affirme effectivement recevoir une aide alimentaire. Et revoici Joseph Gebremichael, l'infirmier pédiatrique tigréen que nous avons entendu tout à l'heure.
Il y avait déjà un manque de nourriture pour les enfants dans notre région. Il y avait des problèmes généraux de sécurité alimentaire. Cependant, la baisse des précipitations et la crise provoquée par la guerre ont aggravé la situation. Par rapport à avant, le taux de malnutrition chez les enfants a triplé.
Pendant ce temps, dans la région voisine de la Mara, la distribution de l'aide rencontre elle aussi des problèmes. Elle est rendue encore plus difficile par une rébellion armée qui, depuis le mois d'août dernier, entrave les mouvements des organisations humanitaires sur le terrain. C'est la fin de ce magazine. Merci à Sertan Sanderson et Million Haile Selassie Bran pour les sons sur l'Éthiopie. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur votre plateforme habituelle de podcast. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.